Wafik, barakallah ma fi ashkal. Je me suis dit peut-être que le son ne fonctionne pas. Alors, je pensais à une faïda. Je pensais à une faïda à l'instant. Bismillah wa salat wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala. Donc, je pensais à une faïda à l'instant. Donc, cette faïda n'est pas forcément directement en rapport avec le cours. Mais une faïda, ça reste une faïda. Et cette faïda ne vise personne, ni à répondre à quoi que ce soit. C'est juste une faïda qui est venue comme ça, en début de cours. Alors, je vous la transmets, Inch'Allah. C'est une constatation que nous avions fait, à laquelle nous sommes arrivés. On s'est posé beaucoup de questions lorsque nous étions à l'institut de Cheikh Mokbel, rahimahullah. Il y avait certains parmi les mashayikh qui enseignaient et les grands étudiants, après une constatation, puis une réflexion. Parce que Allah Ta'ala nous a donné une raison, il nous a donné une intelligence, il faut s'en servir. On a constaté que ce soit les élèves, les chouyours, et même ceux qui étaient venus pour apprendre cette science, on avait donc constaté qu'ils étaient constants. Wallahi, même une fois à propos d'un cheikh, parmi les grands, grands élèves de cheikh Mokbel, je m'étais même demandé, c'est une expression comme ça, à l'époque lorsque j'étais à l'institut du cheikh Mokbel, je m'étais même demandé, j'ai dit, c'est pas possible, c'est un robot. C'est pas possible, c'est un robot. Il est là à tous les cours, 4 fois par jour. Parce que vous avez les cours qu'on appelle les cours particuliers, plutôt les cours avec hors masjid, si vous préférez, hors masjid, avec les professeurs. Et vous avez les cours qui sont obligatoires à la mosquée du cheikh. Alors que ce soit cheikh Mokbel ou ceux qui l'ont suivi après, il y a à peu près 4 cours par jour obligatoires. Et après, la personne se fait son programme. Tiens, je vais faire du tawhid, je vais faire du hadith, il rajoute. Je vais faire de l'arabe. Donc, en gros, ça veut dire que là-bas, tu pouvais te retrouver facilement avec entre 5 et 10 cours par jour. Alors, Faïda, on parle de cours à la mosquée. Il y avait l'explication du Sahih Muslim de l'imam al-Nawawi, celui qu'on fera, Inch'Allah. Si Allah nous facilite. On le fera, l'explication de Sharh Muslim de l'imam al-Nawawi, qui est très profitable, c'est comme à peu près l'équivalent du Sahih al-Bukhari. Il y avait également l'explication du Tafsir ibn Kathir, très profitable également, et il y avait un troisième, j'ai oublié. Comme ça changeait souvent, il y avait Iqtida Sirat al-Mustaqim de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et d'autres, des fois il y avait du Tawahid. Et c'était continuel. Il finissait Sahih Muslim, il recommençait Sahih Muslim. Etc. Etc. Donc la faïda, c'est pas ça. Ça en fait partie, mais c'est pas en gros 100% la faïda. La faïda, c'est que avec tout ça, malgré tout ça, il y en a, je ne les ai jamais vus être absents. C'est comme ça qu'on se dit que ils ont été chercher leur position quelque part. Ils l'ont été, ils ont été la chercher leur position. Ce n'est pas, c'est venu comme ça, parce que je m'appelle Shira Lothaïmin et je fais partie de telle tribu et je suis né dans tel pays. Non. On vous a déjà raconté le récit de Sheikh Lothaïmin, rahimahullah, qui, avec son Sheikh, Sheikh Saadi, l'histoire de la pomme, à la fin, parce qu'il restait dans le cours, un cours qui a été très long et qui était à un niveau assez aussi apparemment difficile. À la fin, comme élève, il restait que Sheikh Al-Saïd. Il a été constant jusqu'au bout. Et on ne dit pas que ça peut arriver d'être malade, etc. Nous, ça nous arrive, comme vous pouvez le constater, mais il faut avoir une certaine constance. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont constants. Tu reviens dans je ne sais pas combien de temps, ils sont encore là. Ils sont encore là. Voilà, pour vous dire, c'est une faïda qui m'est venue, la constance, on en a déjà parlé. Mais là, on en parle à un degré vraiment élevé, dans le sens où on a vu des chouyours, des machaïrs, c'est... Wallah, c'est une parabole, hein. On sait que les robots, ça n'existe pas à ce niveau-là. Mais je me suis demandé un jour, je me suis dit, c'est pas possible, c'est des robots. Ils ne sont jamais malades, ils sont dans les balaques, ils sont jamais... Mais comment font-ils? Alors que nous, à l'Institut de Cheikh Morbel, on était souvent malades, on était... c'est vrai qu'on n'a pas lâché pour autant. Une fois, nous avions la malaria. Et la malaria, ça veut dire chaos allongé. Plus de force. Et malgré ça, on a dit, bon, on ne peut pas assister au cours, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est allongé. Alhamdulillah, on a notre tête, notre aql, notre raison. Du moment que la tête, elle fonctionne, on a appris le maître des trois fondements. On a dit, on ne va pas rester comme ça. En attendant d'aller au cours, on ne va pas rester comme ça. Donc, allongé, plus de force. C'est ça le talab al-ilm. Le talab al-ilm, c'est ça. Tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas. Mais si on n'est pas sérieux, à la kulli hal, c'est valable pour tous. Hein. C'est valable pour tout. Hein. Celui qui est sérieux réussit, celui qui n'est pas sérieux, ben, il ne réussit pas. C'est tout simple. Hein. C'est valable dans tout en réalité. C'est valable dans le sport. Une fois j'y vais, une fois j'y vais. Pas, je ne suis pas sérieux. Et le problème qui se pose, c'est que non seulement pour nous, c'est désavantageux. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non seulement pour nous, c'est désavantageux, mais il faut se dire aussi qu'en face, que ce soit les professeurs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la science, que ce soit au travail ou autre, on ne sera pas pris trop au sérieux comme celui qui lui est comme celui qui est par exemple qui est constant et qui est sérieux. Il sera pas traité de la même façon, ça je pense que vous le savez. Rien de péjoratif et rien de le monde est comme ça, le milieu est comme ça, tous les milieux sont comme ça. Je me souviens pour pas dire de nom, il y avait des frères à l'Institut de Cheikh Morbel qui étaient tellement ils allaient au cours, tellement ils étaient sérieux, tellement ils entraient pas dans les histoires, tellement c'était comme ça, c'était automatique. Les gens, lorsqu'ils voyaient ce frère, ils disaient, lui, il est Mustafid. Ah, le frère Mustafid, là. Le frère Mustafid, ça veut dire le frère qui est venu pour profiter, il profite et en plus il profite lui-même et il fait profiter les autres. Et voilà, le frère Mustafid, là, il se fait remarquer. C'est pas de l'ostentation, lui, c'est malgré lui-même. Hein. Moi, des fois, je travaillais dans des restaurants, ça m'est arrivé dans le passé, il y a quelques années avec les frères, et il y avait des gens qui venaient poser des questions au restaurant, et les autres frères les envoyaient vers moi, va voir lui, il a étudié au Yémen. Va voir lui. Alors, des fois, c'était un petit peu gênant parce qu'il m'envoyait des sœurs. Et pour la dawa, on va pas faire le sauvage et dire j'ai pas le droit de te parler, je peux pas te répondre. Ça, c'est de la contre-dawa. Mais on disait aux frères ne nous envoie pas tout le monde comme ça. D'autant plus que est-ce qu'on a vraiment le niveau de répondre? On n'est pas assez. On est dans un lieu de travail, c'est pas un stand de on fait des fatwas, etc. Donc, mais pour vous dire, il y a quand même des gens qui sont entrés dans l'iltizam, qui ont mis le hijab, tout ça, par la cause du bon comportement. On n'a pas rejeté les gens, on a répondu à leurs questions, on a patienté. Et un jour, une de ces personnes est venue et nous a dit, voilà, j'ai mis le hijab, c'est vous la cause. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc pour vous dire que le comportement, c'est important. Même s'il y a des choses qui sont interdites dans la religion, des choses que l'homme ou la femme, on n'a pas le droit de faire. On peut contourner le halal ou le haram, mais on vous dit mesurer, c'est une règle dans la législation, dans les fondements, de mesurer le pour et le contre. Et d'essayer de faire le moins de dégâts possible, parce qu'au final, si une personne a été guidée par votre cause, par exemple, tu es un frère, une mécréante, elle vient te parler, elle te demande, j'aimerais des renseignements sur la religion, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le droit de vous parler. Partez, madame. Tu ne peux pas faire ça. On sait que le prophète, on sait même que des grands imams de la sunna, des femmes sont venues. Bon, on ne parle pas du prophète parce que les savants disent que le prophète, c'est un cas spécifique. On n'a pas le droit de se comparer au prophète. Mais on sait que parmi nos grands savants, comme l'imam Ahmed et autres, des femmes sont venues leur poser des questions, ils n'ont pas fait les fous furieux. Ils ont répondu. Comme vous voyez, Cheikh Al-Albani, rahimallah, dans des audios en direct, Cheikh Al-Albani, en direct, il répond. Cheikh Al-Fawzan, une femme pose une question, hop, il répond. Il y a pas de, on rentre pas dans les détails, oui, t'as tout, comment tu es, non. Elle pose une question, on répond, c'est tout. Il faut pas se mettre des freins là où il n'y en a pas dans la religion. Nous avions, je me souviens, d'ailleurs, on va vous donner même à l'institut de Cheikh Mokbel. À l'institut de Cheikh Mokbel, il y avait à l'époque Cheikh Abdelrahman Al-Adani, rahimallah, un des héritiers, un des grands élèves de Cheikh Mokbel, rahimallah. Il était très calé. Hein. On dit qu'il avait mémorisé toutes les fatawas de Lajnatul Da'ima, ça veut dire plus de 25 volumes, hein, pour vous dire, 25 volumes de questions. Et regardez dans la vidéo que j'ai faite au tout début de présentation, je vous ai envoyé une vidéo qui est longue à télécharger. Je vous ai montré un petit peu la maktab avec les livres et je vous ai montré Fatawa Lajnatul Da'ima. Et cette Fatawa Lajnatul Da'ima, lui, il avait mémorisé toutes les fatawas. Et à l'institut de Cheikh Mokbel, Cheikh Abdelrahman Al-Adani, il faisait des questions-réponses avec les sœurs derrière un rideau. Elles écrivaient leurs réponses sur un papier, hop, elles lui donnaient et il répondait. Voilà. Dans le chat, j'ai cru voir des commentaires. Alors, quels sont ces commentaires? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On ne peut pas. Non, maintenant, oui. Donc ça, je vous laisse gérer ça. Tout va bien. D'accord. Barakallahu fikoum. Je vous laisse gérer ça. On a un frère, qui, c'est son domaine, hein, les images, le son. Nous, ce n'est pas notre domaine. Chacun son domaine, comme on dit. Taïb, bismillahirrahmanirrahim. Alors, notre ouvrage. J'ai répondu sur le groupe, ça coupe un peu. Ah, d'accord. Ah, ça coupe. Est-ce que c'est de mon côté? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Je suis monté un peu plus haut, troisième étage, avec mon ordinateur portable. J'ai changé d'endroit. Est-ce que c'est de ma faute? Subhan. Alors, je vais descendre. Ah ouais? Alors, donnez-moi une question. Alors, donnez-moi une question. D'accord. Je vais descendre. Inch'Allah. Je vais descendre. Inch'Allah. Ça bug, d'accord. Je vais descendre. Et alors, avec le téléphone, les livres, tout ça. J'ai fait un autre cours ce matin et c'était pareil. Zoom a fait une mise. Pour moi, tout va bien. Alhamdoulilah, pour la connexion, on entend bien. D'accord. Alors, attention, je prends l'ordinateur. Hop, est-ce que ça va être dur de prendre le chargeur avec? Là, je fais quelque chose de périlleux en direct, hein, je vous le dis. Les ordinateurs, les livres, le chargeur, les escaliers. Bismillah. Tant que vous n'entendez pas boum, ça va, c'est que je suis pas tombé. Nous sommes arrivés en bas. C'est mieux? Oui, parce que en fait, je suis loin en plus du portable là. Ah, alors je m'excuse, hein, c'est de ma faute. En fait, parce que le boîtier Internet, c'est censé être la 5G, le boîtier Internet, il est là en bas à côté de moi. Et moi, je suis monté tout en haut. Et c'est vrai que je pensais que ça fonctionnerait bien parce que ma fille donne des cours également. Elle prend et elle donne des cours sur. Du moins, elle donnait, hein, ça y est, elle est mariée. Et ça fonctionnait. Al-Muhim. Alors. Donc, c'est bon. Tout le monde est. C'est bon pour tout le monde, alors, hein? Oui. D'accord. Wa fikum barakallah. C'est bien, quand c'est comme ça, il faut le dire. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Après, si je suis en bas et il y a le boîtier, alhamdoulilah, il y a le boîtier à côté de moi et que ça marche pas, là, je pourrais rien faire de mieux. Mais là, c'est vrai que là, c'est ma faute. C'est ma faute. Taïb. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Fi fadli tilawat al-Qur'an wa Donc, les Les bienfaits de la lecture du Coran et ses différents genres. Alors, on va vous donner une faïda. Moi, quand je vois le titre ici, je vous donne une faïda très importante. Dès le début, on va vous mentionner cette faïda, bien que j'ai déjà parcouru cette cinquième assise. Et j'ai vu que Cheikh Al-Thamine, Allah Ibarak, il en parle. Il dit même qu'il va parler de cela dans un autre chapitre, dans une autre assise. Alors, cette faïda, faites attention. Quand vous entendez Tilawa, la majorité des gens, la grande majorité, majorité des musulmans et les innovateurs jouent beaucoup, se sont beaucoup justement
fait avoir sur ça. La grande majorité des musulmans pensent que tilawa, ça s'arrête à la lecture du Coran. Alors nous, aujourd'hui, on va voir ce côté-là, le côté lecture, hein. Mais le terme tilawa, en général, faites attention, vous ne faites pas avoir. Un jour, il y a un homme qui est parti voir un compagnon, qui lui-même était un compagnon. J'ai oublié les noms. C'est donc Cheikh Abdelazak al-Badr, on l'a déjà raconté à plusieurs reprises, je pense, ce récit. Cheikh Abdelazak al-Badr, dans son explication de Adab al-Mufrad. Cheikh Abdelazak al-Badr nous explique qu'un jour, un compagnon est parti voir, je ne sais plus si c'était, il me semble, Abu Darda. Et il lui a dit, moi, j'ai lu tout le Coran, lettre par lettre. Lettre par lettre. Et le compagnon de lui répondre, tu n'as rien du Coran, même pas une lettre. Tu n'as rien du Coran. Donc regardez, cette personne, elle dit au compagnon, j'ai lu le Coran, tilawat. Tilawat, on est d'accord. Pourquoi le compagnon lui dit, tu n'as rien du Coran? Rien, même pas une lettre. Alors que l'autre lui dit, moi, je n'ai pas délaissé même pas une lettre, lettre par lettre. J'ai lu tout le Coran. Cheikh Abdelazak al-Badr répond à cette question en nous disant, c'est parce que dans la pratique, il n'a rien mis en pratique, ni le comportement, ni la pratique du Coran. Alors cette première faïda pour vous dire que la lecture du Coran, c'est une chose. On va le voir ici dans ce chapitre, dans cette assise avec Cheikh al-Thamin, que oui, la lecture du Coran, il y a les hasanet. Il y a la récompense. Attention, et ça témoigne pour toi. Tu auras cette récompense. C'est écrit. Mais attention, il faut savoir que tilawatul Qur'an, le terme lecture du Qur'an, tilawat, ne s'arrête pas à la lecture du Qur'an. Les savants disent tilawatul Qur'an, ça englobe trois choses. Trois choses. La lecture, donc que vous connaissez, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça, la lecture. La deuxième chose, la pratique du Qur'an, Al-Amal Ubihi, Al-Qur'an. Et la troisième chose, allez, qui pourra nous dire? Question, quelle est cette troisième chose? Je peux vous le dire en arabe. Vous donnez la réponse, on l'a dit, la pratique, c'est la deuxième. Alors, j'ai vu dans le défilement ici une bonne réponse. J'ai vu une bonne réponse. Je vais juste mettre le chat. Ah, je crois, les frères, vous m'excusez s'il y a des frères, le portable est en haut. J'ai tout pris sur le téléphone. Donnez-moi une petite seconde parce que. Alors. Alors, j'aime bien nos étudiants, j'aime bien dire tout le monde a une bonne réponse, mais vous m'excusez, c'est en rapport avec ma compassion et tout ce qu'il y en est. Mais pour être juste, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la compréhension. C'est la compréhension, al-fahm, al-fiqh. Donc, le Coran, tilawa. Vous avez la lecture, la pratique et la compréhension. Maintenant, attention, j'avais pas fait attention, vous m'excusez. La méditation, ça rentre dans la compréhension. J'avais pas fait attention, j'ai focalisé sur la bonne réponse en ne regardant pas les autres réponses, la méditation, ça entre dedans. Les savants disent qu'il est obligatoire lorsqu'on lit le Coran de méditer sur le Coran. Donc, je m'excuse. Compréhension et méditation, c'est bonne réponse. Tayyib. Le comportement, oui, c'est une bonne réponse. Donc voilà, c'est une faïda par rapport au titre. Je n'ai pas voulu qu'on passe à côté, parce qu'aujourd'hui, vous voyez même des gens parmi les gens de l'innovation. Vous le constaterez. Hein. On n'a pas besoin de vous citer des noms. Hein. Ils mettent le paquet sur la lecture, la belle voix. Mais en même temps, ils propagent l'innovation. Donc ça, ce n'est pas pratiquer le Coran. Et ce n'est pas appeler les gens à méditer sur le Coran. Ça, c'est juste appeler les gens à méditer sur la beauté de la voix, du Coran, de la lecture. Et ça, malheureusement, ils utilisent ça, les innovateurs, pour ensorceler. C'est une parabole, façon de parler, hein, pour embrigader. La plupart des gens ne connaissent pas. Donc, ils se disent, regarde, il a une super récitation. Donc, maintenant, il y a des gens d'innovation. Tarawih, il achète une belle sono qui résonne. Il fait Tarawih chez lui, tout seul. Et il met ça sur sa chaîne. Et les gens sont éblouis. Et voilà. Donc, comme il récite super bien le Coran, et il a une belle voix, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Vous avez compris le stratagème ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Alors que la méthodologie des gens de la Sunna, c'est quoi ? Ben justement, ils bouchaient leurs oreilles lorsque les gens de l'innovation récitaient le Coran, par exemple. Et il y a des témoignages de salafs qui ont dit, des compagnons du prophète, hein, ou des tabi'in, qui ont dit, lorsqu'un innovateur leur disait, mais je vais juste réciter un verset, ils disaient, ne serait-ce qu'un seul verset, je n'écoute pas de ta part. Mais pourquoi ? Parce que j'ai peur que l'ambiguïté rentre dans mon cœur et qu'elle ne puisse plus en sortir. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça, dès le début, j'ai vu le titre ici, les bienfaits de Tilawatul Qur'an, et ces gens, et tout de suite la faïda m'est parvenue. Je me suis rappelé de la faïda, j'ai dit dès le début, il ne faut pas que les élèves passent à côté. On va mentionner les bienfaits de la lecture du Coran, mais il faut faire attention, il y a des pièges. Il y a des pièges qui nous sont tendus concernant la lecture du Coran. Regardez, vous croyez, vous ne croyez pas qu'il y a des prêcheurs parmi les prêcheurs de la Sunna qui ont des plus belles voix et qui peuvent lire le Coran, éblouir les gens mieux que les gens de la Bida. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Vous croyez que nous, on n'a pas envie ? Pourquoi des fois on bégaye, on a du mal ? Parce qu'on n'a pas l'habitude, le Coran. On n'a pas l'habitude de, comment dirais-je, de parler le Coran. Lorsqu'il y a un verset dans un livre, ou par exemple ici, il y a un verset Inna alladhina yatluna kitab Allah. Vous croyez que nous, on ne se sent pas mieux si on fait Inna alladhina yatluna kitab Allah jusqu'à la fin. Ça serait mieux pour nous. On se sent mieux. Ça sort mieux. Mais on ne le fait pas parce que ce n'est pas la méthodologie des salafs. On n'est pas là pour éblouir les gens avec notre récitation. On n'est pas là pour ça. Wastaghfirullah wa atubu ilayhi, c'était juste pour vous donner un exemple. Quand un risque salafi, faut-il éviter de l'écouter connu en Arabie ? On m'a déjà posé la question, j'avais la réponse. J'ai déjà fait une recherche sur ça. J'ai oublié. Wallahu a'lam. J'ai oublié. La réponse est, mais qadallahu ma sha'a fa'al, j'ai oublié. Par contre, une chose dont nous sommes sûrs, c'est que prier derrière. Qui les font sortir de l'islam, il y a une divergence entre les savants, mais on peut prier derrière eux. Mais si ce sont des récitateurs, par exemple un récitateur où il y a des choses très graves, c'est un chiite ou des choses vraiment très graves, min al-khawarij, on ne va pas aller écouter sa récitation. On ne va pas aller écouter sa récitation. Non. Wallahu a'lam. Alors, alhamdoulillah, nous on va lire l'introduction du Cheikh. Ça prendra du temps pour la traduire. Mais on va la lire quand même. Alhamdulillah al-da'iya ila babihi. Al-muwaffiq man sha'a li sawabihi. An'ama bil inzali kitabi yashtamilu ala muhkam wa mutashabih. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu wa amma ar-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih. أحمده على الهدى والتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإباه وإيابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أبي بكر أفضل أصحابه وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه وعلى علي مشهور بحل المشكل من علوم وكشف نقابه وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما. طيب. Puis Cheikh Al-Utsaimin rahimahullah nous dit: Oh mes frères, donc vous savez bien que lorsqu'on parle au masculin, sauf preuve du contraire, ça englobe le féminin. Donc lorsque Cheikh Al-Utsaimin nous dit: Oh mes frères, ça comprend Oh mes sœurs également. Et certains savants disent: On ne dit pas Oh mes frères, Oh mes sœurs, Wallahu a'lam. C'est une recherche à faire pour avoir les détails avant de porter des jugements, car nous ne maîtrisons pas cette question religieuse. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, Allah Ta'ala nous dit: Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa qamu salata wa anfaqu min إما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أو أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Pardon. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de parler le Coran comme ça, on a plus l'habitude de lire, donc c'est pour ça que des fois ça... Wallahu a'lam. Alors, avant de donner la traduction du verset, j'avais une faïda. Oui, c'était sur le fait de... Alors, question pour vous. Est-il obligatoire ou pas de mentionner les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on mentionne le prophète, on dit « sallallahu alayhi wa sallam ». Quel est le jugement de ça? C'est obligatoire? C'est préférable? C'est interdit? C'est permis? C'est quoi le jugement? Masha'Allah, très bonne réponse. Très bonne réponse. Je crois qu'il y a divergence, mais les avis majoritaires, est obligatoire. Masha'Allah. Très bonne réponse, il y a des divergences. Vous m'excuserez hein, s'il y a des frères, je n'ai pas mon téléphone. Il y a divergence. Oui, très bonne réponse. Alors, je vais même vous donner une petite info. Oui, exact. Alors, Cheikh Salih Ali Cheikh, dans une de ses explications sur le Tawhid, il me semble que c'est Qawaid al-Arba'a, Allahu A'lam, les quatre règles. Cheikh explique et il dit: il y a divergence sur le fait de mentionner les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que nous dit Cheikh Salih Ali Cheikh. Il nous dit: il y a des savants, il me semble, si je me souviens bien, que c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. En tout cas, il y a des savants qui disent, lorsqu'on fait une invocation, si on ne commence pas par la mention, c'est une faïda au passage, hein, si on ne commence pas par dire Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad, l'invocation n'est pas acceptée. Il y a des savants qui voient ça. Donc, c'est à part, hein, c'est une faïda dont je viens de me souvenir. Concernant ici notre sujet, oui, il y a divergence et il y a des savants qui disent qu'il est obligatoire de mentionner les prières sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, pour vous solliciter un petit peu aujourd'hui, hein, pour vous solliciter un petit peu, vous savez qu'il y a un dalil dans le Coran. Il y a un dalil dans le Coran. J'allais vous demander, mais ça y est, on a déjà répondu. Quel est le dalil? C'est un verset du Coran. Le dalil, c'est un verset du Coran. D'ailleurs, des gens parmi les awam, ils utilisent beaucoup ce verset pour dire aux gens « Salli ala nabi, salli ala nabi. » Wallah. Pour dire « Prie sur le... » Donc ça, c'est pas du tout la sunna, wallahu a'lam. Traduction du verset. « Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public une partie de ce que nous leur avons attribué, espèrent faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur rajoute de sa grâce et les pardonneurs et reconnaissants. » Donc, vous voyez, hein, on revient toujours au commerce. On a parlé dans les cours précédents sur le jeûne. Le commerce que nous avons avec Allah Ta'ala. Attention de ne pas passer à côté. Surtout pendant le ramadan, on a dit quoi? On a dit que pendant le ramadan, c'était le gros lot. Hein, le gros lot. Là, le commerce, comme on dit, c'est ton... c'est ta période, là, pour celui qui fait le commerce, c'est la période où il ramasse le plus. Où il ramasse le plus. Gros chiffre d'affaires. Meilleur chiffre d'affaires, hein, comme ils disent. Mais là, c'est ramadan, c'est chiffre d'affaires en hasanet. Donc attention. Taïb. La récitation du Coran est de deux sortes. Une récitation, alors je vais le prendre en arabe ici. Ici, hein. Tilawat Hakamiyatun, hein. Hukmiyatun, qui consiste à croire aux informations qui s'y trouvent et à se conformer à ces règles en accomplissant les obligatoires et en évitant les interdits. Nous parlerons plus en détail de celles-ci dans un autre cours. La récitation du Coran est de deux sortes. Vous voyez ici, Cheikh Al-Uthaymeen aussi, il nous mentionne la faïda sous deux catégories. La faïda qu'on vous a mentionnée tout au début. La récitation du Coran, ce n'est pas uniquement la récitation lorsqu'on psalmodie le Coran. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit qu'il y a une première catégorie qui consiste à croire aux informations qui s'y trouvent et de s'y conformer. Ça veut dire en gros de pratiquer le Coran, la pratique du Coran. Et la deuxième forme de récitation, une récitation qui consiste à lire et à psalmodier le Coran. On est d'accord. Un grand nombre de textes ont montré son mérite, que cela concerne l'ensemble du Coran et des chapitres ou versets particuliers. Comme vous pouvez le constater, comme on l'a dit au début, la récitation du Coran, c'est incontournable et incontestable. La récompense qui s'y rattache. La récompense qui ici, rattache. Alors, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ah ben en fin de compte, oui, je l'ai sur moi, c'est pour ça, je l'ai sur moi. Je crois que je n'avais pas pris de portable, mais je l'ai sur moi. Donc, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté, selon Uthman, radiallahu anhu, selon Uthman, radiallahu anhu, a rapporté que le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran puis qui l'a enseigné. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran puis qui l'a enseigné. Donc ça, c'est quelque chose de connu, quelque chose qui est assez répandu chez les gens de la Sunna, rapporté par Al-Bukhari. Vous avez le numéro également. Hein. Dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les anges nobles et obéissants. Et celui qui lit avec hésitation et difficulté aura néanmoins deux récompenses. Aura néanmoins deux récompenses. C'est-à-dire qu'il aura une récompense pour la lecture et une autre, pour la difficulté éprouvée. Donc ça, c'est connu également. C'est connu hein, que celui qui lit le Coran et qui a des difficultés, il aura double récompense. Wallahu a'lam. Tandis que la récompense d'Imam Bukhari a rapporté selon Othman que le prophète Hassan a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran puis l'a enseigné. Dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les anges nobles et obéissants, et celui qui lit avec hésitation et difficulté aura néanmoins deux récompenses. Donc c'est-à-dire, il y a deux catégories ici avec deux récompenses différentes. Taïb. Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète salatu wassalam a dit: quiconque lit une lettre du Coran aura une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim sont une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Et il a dit également: certes, ce Coran est le banquet d'Allah. Acceptez les deux, acceptez-le donc, pardon, autant que vous pouvez. Certes, ce Coran est la corde d'Allah, lance la plus solide, la lumière éclatante et le remède utile. Celui qui s'y accroche et le suit sera sauvé et ne dévie pas et n'a donc pas besoin d'être revu. Et n'est pas tordu et ne nécessite pas de correction. Ces miracles sont interrompus et on ne se lasse pas de le lire. Récitez-le car Allah Ta'ala vous accorde 10 bonnes actions pour chaque lettre lue. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim sont une lettre. Mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc pour Alif, Lam, Mim, on peut avoir jusqu'à 30 hasanettes, voire bien plus. Mes chers frères, voici quelques mérites relatifs à la lecture du Coran. Et telle est la récompense de celui qui espère obtenir sa rétribution et sa satisfaction. Des récompenses énormes pour des petites actions, vous voyez. C'est là le tijara où le musulman doit être capable de discerner où est le gros lot. Cheikh Al-Othamin nous dit ici: des récompenses énormes pour des petites actions. Ainsi, le ruiné est celui qui l'aura délaissé. Et le perdant est celui qui aura laissé passer toutes ces récompenses immanquables. Vous voyez le terme qu'a employé Cheikh Al-Othamin ici, immanquable. Ses mérites concernant le Coran dans son ensemble. Dans la Sunna, nous trouvons des textes qui indiquent les mérites de certains chapitres en particulier. Parmi ceux-ci, le chapitre de Al-Fatiha dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, Abu Sa'd ibn Mu'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je vais t'enseigner le meilleur chapitre que le prophète du Coran. La louange appartient à Allah, alhamdulillah. Elle correspond aux 7 versets répétez ainsi qu'à la lecture immense qui m'ont été accordées. Ça, c'est sur la Al-Fatiha. C'est pour cette raison que ce chapitre est un des piliers indispensables de la prière, sans lequel elle n'est pas valable. Surat al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre al-Fatiha. » La salat liman lam yaqra al-Fatiha. Abu Hurairah radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière de celui qui ne récite pas al-Fatiha est incomplète. » On interrogea Abu Hurairah radiallahu anhu « Qu'en est-il de celui qui prie derrière lui-même ?» Il répondit « Qu'il la récite en lui-même. » Muslim, selon Abu Ayyub al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit 10 fois « nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul sans associer à lui la royauté et la louange, il est capable de tout, aura une récompense équivalente à l'affranchissement de 4 esclaves parmi les enfants d'Ismaïl. « La ilaha illallah wahdahu la sharika la hu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. » Taïb, parmi les chapitres qui ont un mérite, donc là, attention, on vous donne encore des gros lots. On vous donne encore des gros lots à tirer. Donc attention là également. Parmi les chapitres qui ont un mérite particulier, les deux protectrices, Al-Mu'idhatayn, Naham, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, Qul a'ouzu bi rabbil falaq, et dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'homme, des hommes, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Uqba ibn Amir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne sais-tu pas que cette nuit on a fait descendre des versets qui n'ont pas égal. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Et dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Uqba ibn Amir de les dire et dit, nul n'a invoqué ou demandé la protection d'Allah par de meilleurs chapitres que ces deux-là. Donc, ça, c'est une faïda pour tout le monde en général, pour protection contre tous les maux hein, que vous connaissez, et également pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont malades, alors, quelle que soit la maladie, hein, pour ceux qui sont malades, ces deux versets, ne jamais oublier que ces deux versets sont très importants, il faut tout le temps les réciter. On peut même les réciter dans de l'eau et boire l'eau, comme le disent les savants de la Sunna. Il ne faut pas passer à côté de ces choses-là. Wallahu a'lam. Également, on multiplie les efforts, chers frères, dans la lecture du Coran, surtout durant ce mois béni, pendant lequel il fut révélé. La multiplication de la lecture a un mérite partout. Particulier pendant ce mois-ci. Taïb, Gabriel, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam, faisait réviser le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année durant le mois du Ramadan. Et l'année de sa mort, il lui fit réviser à 2 reprises afin d'en renforcer sa mémorisation. Les pieux prédécesseurs, Salaf al-Salih, qu'Allah les agrée, radiallahu anhum, multipliaient la lecture du Coran pendant le Ramadan, que ce soit en prière ou autre. Qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, lorsque le mois de Ramadan arrivait, c'est un mois durant lequel nous nous consacrons exclusivement, nous nous consacrions exclusivement à la lecture du Coran et à nourrir les gens. L'imam Malik, rahimahullah, délaissait la lecture du hadith et les assises de science et se consacrait exclusivement à la lecture du Coran. Donc, nous en avons, par la grâce d'Allah Ta'ala, terminé concernant ce 5e chapitre qui est la lecture du Coran. Donc, si vous avez des questions et que nous avons la capacité d'y répondre instantanément, directement on répondra. Sinon, ces questions seront. Les réponses seront différées pour le prochain cours. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont posé déjà des questions. Il y a des questions, on n'a pas encore répondu parce qu'on manque de temps, etc. Il y a des recherches à faire. Donc patientez, Inch'Allah, on va essayer. Hein. Les questions nous parviennent. Hein. On va essayer. Il y a beaucoup de questions par contre. Hein. C'est pour ça, donnez-nous un petit peu de temps, Inch'Allah ta'ala. On vous répondra si on a la possibilité de répondre. Juste une info, malheureusement pour nous. Hein. Juste une info, malheureusement pour nous, on n'est pas en connexion, en contact avec un grand savant. On va essayer de remédier à cela. Au moins un shaykh parmi les mashaykhs, on va essayer de se mettre en contact. Voilà, on va essayer de faire les causes, mais sinon pour le moment, non, on n'a pas de contact. La dernière fois qu'on était en contact, ça se passait très bien. Le shaykh nous appréciait, etc. Mais voilà, il y a des élèves qui, d'autres parmi ces élèves qui étaient en contact avec le shaykh, ils ont cru que c'était un terrain et ils ont eu peur qu'on leur vole le shaykh. Donc voilà, ça s'est terminé. Hein. Voilà. Assalamu alaikum, qu'Allah vous récompense. Qu'en est-il de l'utilisation du chapelet et offrir? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, qu'en est-il de l'utilisation du chapelet, offrir celui-ci, jazakum Allahu khair wa iyyakum. Donc, il y a une divergence entre les savants sur l'utilisation du chapelet. Il y a une divergence entre les savants sur l'utilisation du chapelet. Il y a des savants qui disent que si la personne n'a pas la capacité, elle oublie, elle ne sait pas compter ou des choses comme ça, elle peut, selon certains savants, elle peut utiliser le chapelet. Il y a d'autres savants de la sunna qui voient que le chapelet est une innovation. Naam. Donc, nous, personnellement, nous n'avons pas de position. Seulement, on a une position par rapport à certains agissements. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, les soufis ou d'autres sectes qui, eux, on voit des gens, c'est devenu, c'est devenu maladive. C'est-à-dire qu'on voit même des jeunes, même des imams, hein, qui ont la capacité de compter avec leurs doigts, etc., dans le dhikr, mais c'est devenu chez eux une habitude. On met même le chapelet dans la voiture, on le prend en décoration, on le prend. Sincèrement, vaut mieux éviter, étant donné toutes les croyances qui y sont rattachées, toutes les fausses croyances qui y sont rattachées, sincèrement, vaut mieux éviter. Wallahu a'lam, dans le doute, vaut mieux éviter, comme c'est devenu un emblème des gens de l'innovation, sincèrement, vaut mieux éviter. Donc nous, on transmet les fatawas des ulama. Par précaution, on dit d'éviter, mais nous n'avons pas de position précise, sauf ce que nous venons de vous mentionner. Wallahu a'lam. Je sais que Cheikh Al-Fawzan dit que c'est une innovation. Wallahu a'lam. Alors, du côté des frères, est-ce qu'en lisant simplement la traduction rapprochée du Coran rentre dans la compréhension du Coran? Oui, ça peut être une forme. Ça peut être une forme. Est-ce que celui qui lit le Coran uniquement en bougeant les lèvres et sa langue a des hasanettes? Allahu a'lam. Il me semble que oui, mais je ne suis pas sûr. Dans le hadith de Abu Huraira, Abu Huraira mentionne de réciter la surat al-Fatiha en lui-même quand il est derrière, mais cela signifie sans bouger les lèvres et la langue, pas du tout. Ça signifie qu'il faut, les savants disent qu'il est obligatoire lorsqu'on récite la Fatiha, même à voix basse, il est obligatoire de wa iyyakum, il est obligatoire de la réciter, de bouger la langue, la bouche. Hein. Ça, c'est obligatoire. Lorsqu'on récite à voix basse, c'est obligatoire selon certains savants. Wallahu a'lam. Voilà. En principe, pour quitter le groupe Telegram, ça serait bien de demander la permission. Lorsqu'une personne quitte le groupe, à moins que ce soit une mauvaise manipulation, il faut demander la permission. Ça fait partie du comportement. Même si on ne veut plus faire partie de l'institut, si on quitte un groupe, il n'y a pas de honte. On dit, voilà, barakallahu fikoum, je vais quitter le groupe. Mais on ne quitte pas le groupe comme le font la plupart. Hein. La plupart, ils quittent le groupe, ils se sauvent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le comportement, barakallahu fikoum, le comportement. Je pense que ça doit être une mauvaise manipulation, mais voilà. Taïb. C'est une faïda et c'est une info pour vous. On ne quitte pas les endroits comme ça parce que ça fait partie du comportement. Je vais vous inculquer quelque chose de très important. On me l'a inculqué depuis tout petit. On m'a toujours dit depuis tout petit, laisse ta place propre. Alors, je ne vise pas une personne particulière, c'est pour vous. On est là pour s'éduquer. Laisse ta place propre partout où tu vas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas à un endroit, tu t'es inscrit, que ce soit une salle de sport ou autre, que tu vas voir la personne et que tu lui dis en ce moment, je ne peux pas, je n'arrive pas, ou ce que vous voulez, la personne va te dire, d'accord, prends du recul, tu peux partir, etc. La porte te reste toujours ouverte. Tu peux revenir quand tu veux. Mais si une personne est partie en faisant un mauvais comportement, ne disant pas pourquoi, ou alors là, on appelle ça laisser sa place pas propre. On laisse une place sale. Donc, lorsque la personne voudra revenir, on lui dira non. On lui dira non. Vous comprenez? Ça, c'est important. C'est le shaitan qui nous fait avoir honte. Les savants disent, n'atteins pas la science, l'orgueilleux est celui qui a honte. Il n'y a pas de mal. Nous, on ne porte pas de jugement. Viens nous voir et dis-nous, voilà, comme ça s'est passé déjà avec certains étudiants et étudiantes, voilà, j'ai ceci, j'ai cela en ce moment, je n'y arrive pas, j'arrive pas à étudier, shaitan, etc. On leur dit, pas de souci, mon frère, pas de souci, ma soeur. Prends un stand-by, prends un repos. Et si, quand tu auras besoin de revenir, tu pourras revenir, mais laisse ta place propre. Laisse ta place propre. Alors, il y a ici, voilà, dans le chat, il y a des divergences, mais le mieux c'est de le dire. Pas de portable là-haut, naam, avec le salaire récompense. Hein. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Est-il possible de lire dans sa tête le Coran? Est-ce que c'est possible de lire dans sa tête le Coran pour clôturer la clôture du mois? Il faut obligatoirement lire à haute voix. Allahu a'lam, moi de ce que je sais, Allahu a'lam, j'aimerais répondre à cette question après une recherche. Je n'ai pas envie de m'avancer. Allahu a'lam, sarahatan. Je vais chercher dans le prochain cours, je vous donne la réponse, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum, oustaz. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir si le plus important pendant le ramadan est de lire entièrement le Coran, mais sans prendre le temps de bien méditer, ou bien de lire une petite quantité, mais avec une bonne compréhension, en prenant le temps de méditer. Le mieux, c'est de prendre le temps de méditer. Si on a à choisir entre les deux, mais pour les hassanettes, celui qui veut les hassanettes de la lecture, c'est sûr que c'est mieux de finir le Coran entier, la lecture entière. Mais celui qui veut pratiquer le vrai tilawa du Coran, ça passe par la compréhension, méditer. Wallahu a'lam, il y aura peut-être les hassanettes en lisant tout le Coran, les hassanettes de la lecture, mais il y aura les hassanettes de la compréhension et il y aura quelque chose de fort. En lisant le Coran, en méditant. Et d'ailleurs, c'est wafikum barakallah. Et d'ailleurs, c'est le but de la lecture du Coran. C'est le but de la lecture du Coran, de comprendre ce qu'on lit. C'est très important. Donc voilà, il n'y a plus de questions. Wafikum barakallah, ahi papa. Il n'y a plus de questions. Inch'Allah ou ta'ala, nous allons, d'accord, oustaz, wafikum barakallah. Nous allons, inshallah ta'ala, clôturer ce cours en vous donnant rendez-vous, inshallah ta'ala, demain matin. C'est bien ça, demain matin, en vous souhaitant un bon appétit, un bon ramadan, et qu'Allah vous préserve tous ainsi que vos familles. Et on demande à Allah ta'ala qu'il accepte toutes nos œuvres pendant ce ramadan et qu'il nous fasse entrer au paradis. Amin. Barakallah. Allahu fikum. N'oubliez pas l'invocation, s'il vous plaît. Amin. N'oubliez pas l'invocation. Allahumma anta al-afu, tuhibbu al-afwa, fa'fu anni. Ne l'oubliez pas, les nuits de Ramadan, que les frères ou les sœurs qui sont aptes à faire la traduction, faites la traduction écrite et faites la partager dans les groupes. Oh Allah, Allahumma innaka afoun, tu es le pardonneur, innaka afoun, tuhibbu al-afwa, tu aimes le pardon, hein, fa'fu anna ou fa'fu anni, pardonne. Nous, à peu près dans ce sens-là, cette traduction rapprochée du sens, c'est une invocation spécifique aux nuits de Ramadan, surtout les 10 derniers jours. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ne lâchez pas ça pendant le Ramadan. Barakallahu fikoum. Et essayez, comme on l'a mentionné, hein, il y a beaucoup de gros lots à attraper pendant le Ramadan. Barakallahu fikoum, hayakum Allah, mashallah. Pour le hadith, il y a beaucoup de gros rouleau à pêcher pendant le Ramadan, profitons-en. Il y a même, à ce que j'ai vu, des associations de confiance où on peut participer à des mosquées, des puits, donner à manger, le plus important. Il y a des, je ne sais pas en France si vous avez ça, mais nous on a beaucoup ça en Angleterre. Ce sont des, vous donnez un peu d'argent et ça va nourrir des pauvres dans un pays étranger. Je ne sais pas, vous allez donner 5 €. Ça va, c'est l'équivalent de nourrir deux pauvres. Ils achètent des genres de repas et ça aussi c'est bien. Il faut juste vérifier que ce sont des gens sérieux, hein. Mais à partir du moment où c'est des gens sérieux, ça c'est une bonne chose. Il y a des gens sérieux, il y a des associations aussi en France. Alhamdulillah, si vous connaissez des associations qui sont de confiance et que vous ne pouvez pas aller sortir, aller donner à manger, et ben là c'est pareil, hein. Là c'est pareil, hein. C'est comme quand vous donnez votre zakat al-fitr à une association, comme le disent les savants, c'est permis sous certaines conditions, hein. Une association qui est sûre et qui va, maintenant attention, il y a des savants, ils disent c'est mieux que tu ailles donner toi-même, hein. La zakat al-fitr, tout ça et tout, c'est mieux de donner directement. Ah oui, association, tout ce qu'il y a, je ne sais pas, mais à le Yémen, oui, hein. Le Yémen, là c'est vraiment la catastrophe sanitaire, humanitaire, à cause des non, mais on redistribue dans d'autres pays, mashallah, mashallah. Oui, l'Arabie Saoudite, ils sont beaucoup investis, hein. Il y a beaucoup qui critiquent l'Arabie, mais c'est parce qu'ils n'ont pas, ils sont tombés dans une sorte de, ils suivent comme des moutons, ils suivent les Khawarij, les frères musulmans, mais l'Arabie, il ne faut pas croire qu'ils ne donnent pas, hein. Si vous allez dans les sites où il y a les statistiques de ce que donne l'Arabie, vous verrez qu'il n'y a pas un pays au monde qui donne comme l'Arabie, hein. C'est des millions de dollars, des fois des milliards. Ils envoient des bateaux, des. Et attention, hein, faut pas écouter ce qu'on dit, l'Arabie donne. Hein. Maintenant, si nous, demain, on nous met chef de gouvernement, on nous donne des milliards, du pétrole, de l'or, tout ce que vous voulez. Est-ce que nous, on sera mieux qu'eux? Est-ce que nous, on va préserver la religion? Ou est-ce qu'on va tout oublier et on va vider les comptes et on va partir sur une île? Wallah, wallah, on ne sait pas. Il ne faut pas critiquer. Wallah, il ne faut pas critiquer. L'argent, c'est une fitna. Est-ce qu'on sera capable, nous, de faire comme eux? Wallah. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous demain. Barakallahu fikoum. Wa nas'alallahu yahfazkoum. Ou yahfazna jami'an. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.